Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Sebos, LDVC, PLGL, Clément, Mr. Clem, Alexandre Dat, Fabien Leblanc, Fabrice, Max Wooz, Alexis Froissart et Marc Billois. Merci à vous et à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On vous fait un petit résumé, une petite compilation des news les plus importantes et en plus on les met dans leur contexte, on les analyse, on les explique de manière simple et compréhensible et j'espère avec un petit peu d'analyse intéressante pour les experts. Aujourd'hui on va vous parler de l'algorithme, des algorithmes et de la relation changeante qu'on a avec ces merveilles de la technologie. On va aussi parler d'Apple qui fait des petits changements potentiels dans sa stratégie et qui pourrait avoir des grosses conséquences et des grosses implications. On va parler donc de processeurs et d'intelligence artificielle, etc. Et puis on aura plein d'autres petites news et rumeurs comme d'habitude avec de l'énergie verte, des nouveaux processeurs, des téléphones de qualité, des DNS à choisir, etc., etc. Plein de choses intéressantes dont on va vous parler. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Cédric Ingrand, grand journaliste technologie TF1. Comment ça va?
Si tu veux. Ça va très bien, Patrick. C'est toujours un plaisir.
Merci de te joindre à nous. Je crois comprendre que tu nous fais cette émission en direct d'un Huawei P20 dont on va parler un petit peu tout à l'heure.
Oui, c'est pas pour le goût de la performance, c'est juste parce que j'ai eu un problème avec mon MacBook, donc on est passé plan B qui est mon ordinateur au boulot, qui marchait très bien, sauf que pour le son il s'entendait pas avec la mixette, c'est dommage, je suis un vrai son professionnel comme à la télé, tu vois, et donc voilà, le plan C, bah, c'est le kit oreillette du Huawei P20, qui, coup de chance, était bien chargé à ce moment-là, et qui en plus a deux SIM, donc normalement doit avoir plein de data pour faire du Skype.
Bah écoute, toi en plein Paris avec une technologie de pointe et moi dans la campagne finlandaise, puisque ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'ai déménagé dans la campagne finlandaise pour la partie Finlande et on est en train de tester la connexion 4G au milieu de nulle part. Je suis à genre 10 km du magasin le plus proche et j'ai quand même la 4G. C'est beau la Finlande.
Donc, à un moment, t'auras de la fibre à un moment ou...
Mais j'ai de la fibre, j'ai déjà de la fibre, figure-toi.
Amazing.
Mais oui, j'ai déjà de la fibre. Le truc, c'est qu'il y a des travaux pas loin et donc l'électricité coupe et j'ai pas encore les onduleurs pour pouvoir gérer la chose. Donc, pour le moment, 4G et ordi portable. Mais les onduleurs arrivent, d'accord, donc ça sera mieux, ça sera mieux. Voilà. Ça c'est pour la petite vie de Patrick. On va continuer avec la petite vie de la technologie et on a un premier sujet qui est assez intéressant, qui est une sorte d'agrégation de réflexion. Vous savez que dans l'émission on essaye toujours de parler non seulement des informations spécifiques tech, un petit peu techniques, mais aussi des tendances et de ce qu'on voit en tant que spécialiste et analyste et connaisseur du marché et de l'industrie, des tendances qui sont en train de poindre le bout de leur nez. Et un truc qu'on a remarqué avec, bien sûr, les scandales liés à Facebook, mais pas seulement, c'est une sorte de reconsidération de l'algorithme. Et quand je dis l'algorithme, c'est presque avec un A majuscule. C'est pour dire l'idée même et la puissance de l'algorithme. C'est un petit peu l'algorithme c'était une solution magique en fait à énormément de problèmes Et maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est pas si magique que ça, en fait, les algorithmes, parce que, ou peut-être que c'est magique, mais qu'il y a des petits soucis que ça peut poser également. C'est plus une sorte de messie qui allait nous sauver et réussir à comme je disais, résoudre des problèmes qui semblaient insolubles jusqu'ici. Mais il y a aussi des défauts, comme pour toute technologie, qu'il faut prendre en compte. Les différents sujets dont je voulais parler, enfin que je voulais réunir dans cette discussion, c'est d'une part, on avait parlé il y a un certain nombre de semaines des problèmes de YouTube, en particulier pour les enfants. On sait qu'il y avait des vidéos assez perturbantes pour les enfants, enfin, disons que certains créateurs destinés aux enfants, mais qui étaient complètement bizarres, étranges et voire même, comme je disais, très perturbantes. Et YouTube et Google se sont penchés sur le problème et ont essayé de le résoudre, mais ils n'ont pas réussi vraiment à, par la puissance de l'algorithme, ils n'ont pas réussi à sélectionner suffisamment bien les vidéos qui apparaîtraient sur, en particulier, l'application YouTube Kids. Donc, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une nouvelle version de l'application YouTube Kids qui va arriver dans quelques semaines, qui aura une option de désactiver entièrement la recherche algorithmique, donc la recherche automatique faite par les ordinateurs, pour n'avoir que des vidéos suggérées, enfin, des vidéos et des suggestions qui ont été sélectionnées. Et là, c'est un petit peu Yahoo qui se retourne dans sa tombe, parce que Yahoo, on se souvient, le moteur de recherche qui a été supplanté par Google, Yahoo était essentiellement sélectionné, il sélectionnait les pages, et Google, la raison pour laquelle ils ont réussi à remplacer Yahoo, c'est que leur algorithme était tellement puissant qu'il indexait absolument tout l'internet, et donc il était beaucoup plus efficace pour trouver ce qu'on voulait trouver. Donc il y a cette histoire de YouTube qui est significative à mon sens avec YouTube Kids. Il y a l'application Quant Junior, là encore on parle d'enfants, on connaît tous le moteur Quant qui respecte votre vie privée, qui est d'ailleurs un moteur de recherche français. Ils ont une application qui va arriver bientôt, qui s'appelle Quant Junior, qui a un algorithme spécifiquement dédié à la recherche de contenu approprié pour les enfants, mais pas que, ils ont aussi une partie, là encore, sélectionnée. Et donc, c'est une sorte de liste blanche de sites qui sont appropriés et ils les autorisent à passer sans passer par l'algorithme. À côté de ça, il y a eu différentes personnes qui ont publié des papiers d'analyse justement qui disent que l'algorithme n'est pas tout puissant et que d'une part, il est inévitable dans les applications où on partage les informations, quand même pour les applications du type on peut imaginer WhatsApp où c'est des messages privés. Au bout d'un moment, on finit par avoir des messages privés de groupe. On parle d'utilisation intensive, bien sûr. Des messages privés de groupe où il y a énormément de gens. Les jeunes l'utilisent beaucoup comme ça. Et puis, on va avoir 5, 10, 20, 30, 15 messages privés de groupe où il va y avoir dans chacun 20, 30, 40 personnes. Au bout d'un moment, ce genre de truc, ça a aussi... l'organisation simplement ne fonctionne pas sans une sorte de newsfeed. Et le newsfeed, pour l'organiser, il faut forcément avoir une sorte de truc algorithmique contrairement à ce que pensent certaines personnes, on pourra en discuter. Mais donc l'algorithme est à la fois une sorte d'inévitabilité et en même temps a des défauts qui ont été mis à jour ces derniers temps avec différents exemples dont on parlait. Donc, après cette longue explication, je me retourne vers Cédric. Et donc, toi, en tant que connaisseur de la chose, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, des qualités et des défauts de l'algorithme? Est-ce qu'on est en train de passer dans un monde post-algorithmique?
Non, je pense pas. Non, je pense qu'on est justement en plein dedans et j'ai même l'impression qu'on est presque qu'au début, en fait. Donc, de fait, il y a des choses sur lesquelles les algorithmes sont pas parfaits, comme par exemple la curation. J'aime pas ce mot, hein, parce qu'on dirait une procédure médicale.
T'as un petit peu coupé. Tu disais on dirait une procédure médicale?
Oui, c'est ça. On dirait une procédure médicale pas très agréable. Mais aujourd'hui, avoir un YouTube Kids, par exemple, qui te dise d'un seul algorithme, enfin, avec mes algorithmes, je vais filtrer de manière efficace des choses qui sont du contenu. Le contenu, c'est très compliqué. Souviens-toi des soucis que que Facebook peut avoir avec la nudité, par exemple. Ça y est, on a des algos qui peuvent détecter de la nudité dans une image. Mais la question après, c'est celle de l'intention de l'image. Et tu vois, entre une image qui soit de l'érotisme pur et, je sais pas, l'origine du monde ou un tableau avec des naïades tel que tu le verrais au Louvre, bah, l'intention de l'image, l'algorithme peut pas la détecter. Idem pour ces vidéos pour enfants, où il y a d'un côté des programmes qui sont des programmes pour enfants, et puis des choses qui sont de la pub éhontée qui se fait passer pour un programme pour enfants, voire même des choses qui utilisent des images de programmes pour enfants, mais qui sont pas du tout des choses destinées aux plus jeunes.
Ouais, donc c'est ça, ce dont on avait parlé dans les épisodes précédents, qui était voilà. étrange. Ouais.
Ça, l'intention d'un contenu, l'algorithme est vraiment pas fait pour arriver à le détecter, quoi. Je le disais, c'est exactement ce qui arrivait à Facebook avec le nu, etc. Donc c'est très difficile à dire.
Mais je du vais coup, faire... c'est, enfin, t'es en train de défendre. Mmh. Tu commençais par défendre l'algorithme, mais du coup là, t'es un petit peu en train de l'enfoncer.
Non. C'est-à-dire que ça peut pas servir aujourd'hui à tout. Peut-être qu'un jour, les algorithmes arriveront à avoir, tu vois, le fond culturel nécessaire pour détecter l'intention d'un contenu. C'est chaud. Surtout sur des contenus qui sont pas des contenus écrits. C'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui se passe sur l'image et le son. Enfin, là, on rentre dans des niveaux de difficulté qui sont quand même assez terribles. Mais, donc, l'algorithme peut pas servir à tout. Et quand on annonce qu'on va faire du contenu sélectionné, si tu veux, par exemple, pour Netflix, c'est beaucoup plus facile de dire, je vais vous faire des suggestions et d'investir dans des algorithmes qui essaient de te faire des suggestions judicieuses sur ce que tu pourrais vouloir regarder. Pourquoi? Parce que les données, les contenus qu'ils détiennent, ils les connaissent, ils sont sélectionnés à l'entrée. Sur YouTube, c'est pas du tout le cas. N'importe qui peut poster n'importe quoi et dire ceci est le dernier épisode de Peppa Pig, alors qu'en fait, je sais pas, ils ont fait un doublage affreux où Peppa Pig a des aventures sexuelles avec ses camarades de classe. Alors c'est pas affreux en soi, ça peut faire rire les adultes, mais c'est pas fait pour les enfants.
Mais du coup, ouais, ce que t'es en train de dire, c'est que l'algorithme est bon pour plein de trucs, mais pas pour la curation. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de curation, on parle particulièrement au cas de figure où il y a des contenus dont on n'est pas certain de l'origine et quand on s'adresse plus particulièrement aux enfants. C'est un petit peu ce sur quoi on revient à chaque coup. Mais il y a une autre utilisation qui est limite controversée de l'algorithme chez certaines personnes. C'est les algorithmes pour les flux de news comme les flux Facebook, les flux Twitter, etc. Il y a plein de gens qui disent ah oui, mais moi je veux pas de l'algorithme, donnez-moi le flux comment dire, le flux brut
chronologique.
Hein, chronologique, oui, voilà, exactement. Et là, je suis un petit peu moins convaincu parce que on se rend compte quand on étudie la chose d'un petit peu plus près qu'il y a par jour, pour la plupart des utilisateurs, aujourd'hui qu'on a des dizaines, des centaines d'amis et de pages qu'on suit, en particulier sur Facebook, il peut y avoir des centaines, voire 1000 ou 2000 contenus qui seraient candidats à un affichage sur votre flux. Et ça, par contre, c'est pas du tout possible. Enfin, c'est possible, mais enfin, vous verriez rien, vous verriez pas plus les choses intéressantes.
C'est un choix. C'est, à mon sens, c'est un choix. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que si on disait, tiens, Facebook va venir ou revenir à un truc purement chronologique. De fait, tu vas avoir un flux de news qui sera pas très, très gérable. Mais par exemple,
c'est... Non, mais c'est plus que pas gérable. Si t'as ne serait-ce que 500, trucs qui apparaissent dans la journée, l'important, c'est que tu vas même pas avoir plus les trucs intéressants que tu crois, parce que tu crois que l'algorithme te donne pas les choses qui sont intéressantes, mais c'est pas avec un flux chronologique
en fait,
que tu vas voir les choses intéressantes non plus.
Tu ne connais pas la réalité des choses, mais tu t'exposeras juste à te dire peut-être que je rate des trucs. Mais remarque, c'est exactement ce qui se passe sur Twitter. Tu sais que si tu te connectes pas sur Twitter pendant 3-4 heures, bah oui, bien sûr, tu vas rater plein de choses. C'est vraiment, voilà, le train est passé, la rivière est passée devant tes yeux, t'as pas regardé, t'as raté ce qui se passait au milieu. Bon, c'est une autre utilisation. C'est pour ça que Twitter est moins dans ce genre de problématique, même si eux aussi essaient d'avoir des algos pour faire ressortir au moins les contenus les plus populaires ou qui font le plus réagir, mais
ah, c'est ça. Même eux, ils ont une section, une petite partie algorithmique qui est la partie in case you missed it. Si vous l'avez raté,
c'est ça.
On peut voir effectivement certaines mises à jour qui sont qui était
populaire.
Ouais.
Du coup, on peut imaginer panacher les deux. C'est-à-dire que ton Facebook peut te dire, ah, voilà les trucs qui sont arrivés, qui, selon nous, sont importants pour vous dans la journée écoulée, par exemple. Et puis après, tu retombes sur un flux purement chronologique. C'est un choix. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais la question, c'est comment tu sélectionnes? C'est quoi les métriques? Moi, je me souviens ce que Facebook a fait pendant longtemps, sur tous les contenus médias, particulièrement. Tout simplement, il te faisait des suggestions de contenu, basé sur l'engagement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire combien de gens ont aimé, combien de gens ont réagi, combien de gens ont partagé, et surtout combien de gens ont réagi en fait. Qu'est-ce qui générait de la conversation? Le problème, c'est que l'algorithme s'arrêtait en gros au nombre de réactions et pas au contenu des conversations. C'est pour ça que tu voyais apparaître sur ton flux plein de trucs sur le jus de citron soigne le cancer, etc. Et évidemment, en dessous, t'avais des querelles quasi religieuses entre, mais si, je vous jure que c'est vrai, et non, mais attendez, vous êtes des crétins, la science ne dit pas ça.
C'est d'ailleurs une des choses que fait remarquer un des articles qui m'a attrapé l'œil de la très sérieuse Columbia Journalism Review, qui dit, en gros, l'ère des trends, des tendances, est un petit peu en train de s'estomper. Eux, ils utilisent peut-être même un langage un petit peu plus fort, parce que on est en train de se rendre compte que là encore, cette méthode algorithmique, qui est finalement une certaine méthode de curation, qui est de voir les tendances, eh ben, ça fait pas ressortir les trucs intéressants, ça fait ressortir les trucs qui font réagir. C'est le problème qu'on a eu sur Facebook. Et, d'ailleurs, il y a Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg qui ont fait une sorte de mea culpa. Bon, ils font un mea culpa un peu Zuckerberg, il fait un mea culpa tous les deux ans. Mais là, ça a l'air un petit peu plus profond, étant donné que la crise est également un petit peu plus importante, mais ils ont admis publiquement, ils disaient qu'ils n'avaient pas compris à quel point les outils pouvaient être utilisés, enfin, qu'ils n'avaient pas assez investi, en fait, dans la sécurité des utilisateurs et dans les manières dont leurs outils pouvaient être utilisés, ce qui inclut évidemment l'algorithme. Et donc, tu parlais des tendances, des trends, et là encore, je pense que les trends sont peut-être pas complètement mise à mal, mais qu'il faut peut-être les aménager un peu, quoi.
Disons qu'ils l'ont compris, hein, parce que ce genre de choses, c'est un peu arrêté. Je pense qu'on en reviendra un jour à la question de savoir est-ce qu'il faut un bouton, tu vois, un inverse de like sur Facebook, comme ça existe sur YouTube, par exemple, pour arriver à faire redescendre des vidéos dont le nombre d'interactions pourrait laisser à penser qu'elles ont une qualité intrinsèque. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je pense pas que c'est comme la blague de Coluche sur les pubs de lessive où tu vois quelqu'un qui arrive avec un t-shirt taché de sang en disant si t'as du sang plein ton t-shirt, peut-être que la lessive n'est pas ton premier problème. Là dans le cas précis de Facebook, je pense pas que la curation des trends soit le premier problème de Facebook en ce moment.
Mais c'est exactement le problème, c'est parce que c'est cette méthode algorithmique de faire remonter les updates, les sujets intéressant, entre guillemets, était basé uniquement sur les interactions. Enfin, c'est le cas aussi pour les trends, tu vois, c'est exactement... C'est en fait, si on arrive au cœur du problème, et on va peut-être conclure là-dessus, si on essaye de sortir le cœur du problème, c'est peut-être que les algorithmes sont, entre guillemets, mal foutus. C'est facile de dire ça, parce qu'on n'est pas dans les mains dans le cambouis à essayer de les concevoir, mais sont mal foutus parce qu'ils ne prennent en compte que les interactions. Et c'est ça favorise, comme on le savait depuis un moment, ça favorise donc les sujets controversiaux. Et donc les algorithmes sont optimisés pour ça, pour l'engagement, comme tu l'as dit. Peut-être qu'il faut pas se débarrasser des algorithmes, qu'il y a un cas particulier pour la curation, c'est certain, et en particulier pour les enfants. Mais peut-être qu'il serait possible d'améliorer les algorithmes pour qu'ils soient non pas optimisés pour l'engagement, mais plus qualitatifs et plus qualitatifs dans le sens quel type de contenu est-ce qui est de quel type de contenu est-ce qu'on parle?
Oui, bien sûr. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile. Moi, je pense quand même que le cœur de la crise de Facebook, c'est la fuite de données des utilisateurs, enfin, et puis un vrai problème de fond de confiance et même de conscience, c'est-à-dire que il y a un problème d'éthique.
C'est clairement ce qui est en train de ressortir. Mais c'est ça, à la limite, qui encore une fois, je pense que Peut-être que c'est moi qui m'accroche trop à mon idée d'algorithme, et les auditeurs, vous pourrez me le dire dans le dans les notes de l'émission, mais tout revient finalement à cette question d'algorithme qui favorise les interactions. Quand on dit engagement, c'est interaction finalement avec le contenu. Parce que quand on parle de la fuite des données, oui, bien sûr, c'est en soi un problème, mais la raison pour laquelle ces données avaient une importance, c'est parce qu'ensuite, on peut cibler les gens en fonction de leurs intérêts pour qu'ils interagissent avec les contenus et que du coup, ils se propagent plus. Donc, on revient toujours à cette question d'algorithme qui favorise la diffusion des contenus qui font réagir. Et je ne sais pas s'il y a un autre moyen de sélectionner les contenus qu'on va vous montrer. Parce que comment savoir si quelque chose est intéressant ou pas? À l'échelle, alors à l'échelle de quelques vidéos, c'est pas trop compliqué, on pourrait faire de la curation, mais à l'échelle de dizaines de milliers, dizaines de millions de contenus par jour, si on le file pas à un ordinateur...
Oui, c'est ça. C'est immensément compliqué. Il faut rappeler que Facebook, c'est combien? Il y a combien de gens qui travaillent chez Facebook? Je crois que c'est 25 000 environ. 25 000 personnes peuvent pas surveiller les contenus de 2 milliards d'utilisateurs.
Ouais. Après, et même 200 000 personnes peuvent pas surveiller les contenus de 2 milliards. C'est pas un problème qu'on peut résoudre en ajoutant, on peut améliorer un petit peu les choses, mais.
Les Chinois ne seraient pas d'accord avec toi. Ils ont trouvé des solutions justement en résolvant à la chinoise le problème, c'est-à-dire par le nombre, avec leur troupe qui est le fond de la censure, disons-le.
Disons que la solution chinoise c'est plus simple, c'est que t'as la gâchette facile, quoi. Tu bloques tout, donc effectivement.
Non, tu bloques pas tout, mais tout à coup, il y a des mots clés qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus sur les moteurs de recherche. Des mots que tu peux plus publier sur les réseaux sociaux, etc. Bon, c'est autre chose. Et puis des dizaines de milliers de personnes qui font à leur manière de la curation de contenu.
Bon, on va dire ça comme ça. Bon, si vous avez une solution magique pour régler les problèmes d'algorithme des réseaux sociaux et des sites de recherche, etc.
Faites votre propre réseau social.
Ça serait une bonne idée. Je crois que la leçon, on n'a clairement pas de solution, mais la leçon qu'on en tire, c'est vraiment la cristallisation de ce truc qui était dans l'air, c'est que, comme finalement tu l'as bien synthétisé, l'algorithme est un problème spécifiquement pour la curation, mais la curation est partout. Donc peut-être que c'est un truc à prendre en compte dans la conception des algorithmes qui ne privilégieront peut-être pas autant l'interaction à l'avenir que c'est le cas aujourd'hui. La question qui est énorme, c'est savoir quoi privilégier plutôt que l'interaction, parce que c'est la seule donnée qu'on ait qui soit un clair indicateur d'intérêt pour le...
Oui, puis c'est une question d'intérêt dans tous les sens d'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt de Facebook, c'est générer de l'interaction.
Bien sûr.
Parce que plus tu génères d'interaction, plus tu génères de trafic. Je sais plus qui me disait que Zuckerberg avait dit qu'il voulait voir baisser un peu l'activité de ses utilisateurs. Ça, je pense pas, je sais pas quelle est la source réelle de ce truc. Mais c'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer, parce qu'apparemment, même aux États-Unis, le temps passé sur Facebook baisse, les jeunes générations, ils vont beaucoup moins.
Ils montrent moins de contenus qui viennent des pages professionnelles et plus de contenus, mécaniquement plus de contenu des relations personnelles qu'on a, donc ça diminue l'engagement parce qu'il y a moins de...
Moi qui ai plus Facebook sur mon smartphone depuis les vacances de fin d'année, j'ai gagné un temps fou, c'est-à-dire que je suis plus non mais c'est vrai, je suis plus à la merci de la notification sur vous avez vu machin a publié un statut, il n'avait pas publié depuis un certain temps. Est-ce que ça en fait quelque chose d'intéressant? Vous avez vu machin a parlé de machine, on dirait un truc de cours d'école. Par contre, ça m'a permis d'observer ce qui se passe quand tu arrêtes de te connecter à Facebook. Et là. Facebook devient un peu comme une vieille maîtresse délaissée, c'est-à-dire qui te pourrit la gueule de messages.
J'utilise pas beaucoup, en disant,
mais vous n'êtes pas venu depuis longtemps.
Ouais, j'utilise pas beaucoup Facebook de base. J'utilise la page publique pour les émissions. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que quand tu publies une mise à jour qui fonctionne pas trop mal, c'est-à-dire qui a un bon taux d'interaction, il te dit « Oh, votre mise à jour, elle fonctionne pas mal, poussez-la plus, faites un petit peu de pub, ça vous permettra d'atteindre encore plus de monde. » Donc je me dis « Ok, normal, machin. » Et quand tu as une mise à jour qui fonctionne pas super bien, il te dit, ouais. Il t'envoie aussi un message en te disant, oh mais votre mise à jour, il y a d'autres personnes qui ont fait des mises à jour similaires et ça a poussé l'interaction à fond. Vous devriez faire de la pub pour pousser l'interaction. C'est très vicieux, quoi.
Non mais c'est là où l'intérêt de l'utilisateur se heurte aussi à l'intérêt
de Facebook, là, bien sûr, oui.
De Facebook, c'est-à-dire que Facebook c'est pas que de l'interaction, c'est aussi du business. Donc c'est ça aussi qui complique les choses. Et moi je suis assez frappé par le peu de qualité de leur communication de crise, quoi. C'est terrifiant. Ouais.
Ça c'est effectivement un autre problème. Moi, je dirais qu'effectivement, c'est assez surprenant de constater que, en fait, c'est ce problème qui est au cœur des problèmes d'algorithme. C'est l'interaction qui est le pavé dans la mare, l'épine dans le pied. C'est la malédiction de l'interaction qui pourrit les algorithmes, en fait. Finalement, c'est pas les algorithmes qui sont vraiment problématiques. C'est ce que cherchent à faire les algorithmes. Et ce que cherchent à faire les algorithmes, c'est de l'interaction. Donc, peut-être que c'est de là que vient le problème. C'est qu'il faut faire des algorithmes, créer des algorithmes qui sont pas uniquement dédiés à l'interaction et à pousser l'interaction. Bon, on ne résoudra pas ce problème tout de suite, mais on peut discuter d'autres problèmes, comme par exemple, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de l'émission, mais on va passer à autre chose avec Apple, qui a deux news plutôt intéressantes, j'ai trouvé. D'une part, ils ont réussi à débaucher John Gianandrea, qui était le... Chief Search and AI Executive Vice President, donc Executive Vice President of Search and AI, donc le vice-président exécutif de la recherche et de l'intelligence artificielle, qui va maintenant travailler chez Apple pour gérer l'intelligence artificielle, la stratégie de l'intelligence artificielle. En gros, il va essayer de faire en sorte que Siri ne soit pas pourri comme il l'est aujourd'hui. Et c'est, je pense, un énorme débauchage pour Apple, parce que ils ont vraiment un problème là-dessus. Et s'il y a des gens qui savent comment corriger ces problèmes, ça sera les gens de chez Google qui ont développé tout ça, quoi.
Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est un problème d'algorithmie, est-ce que c'est un problème de données aussi, parce que c'est moi, mon Google Home est merveilleux, il sait où je travaille, il sait où j'habite, enfin il a plein d'éléments de contexte que j'ai pas besoin de lui repréciser. Siri en a forcément un peu moins, il a moins d'historique sur moi, donc on va retomber dans un truc où tout à coup Apple va dire, il va falloir que je collecte un peu de data quand même.
Moi je crois que c'est une question de, enfin ils avaient pas les bonnes équipes, ils avaient pas réussi à décider ce que devait être Siri à la base, ils ont jamais réussi à rattraper leur retard. Je pense qu'ils avaient juste pas les bonnes personnes. Ils avaient des personnes très bonnes, mais il faut des personnes, enfin j'imagine qu'il doit y avoir 20 personnes dans le monde, tu vois, qui sont capables de faire ce type de...
Non, il y en a bien plus que ça. Vraiment, il y en a bien plus que ça, et il y en a plein qui sont françaises.
Il faut
juste les débaucher, et la surenchère... aujourd'hui, si t'es ingénieur, tu sors d'une école d'ingénieur aux États-Unis et tu sais faire un peu d'AI, ce qui n'est pas une discipline plus compliquée qu'autre chose. En fait, tu vois, c'est une discipline, mais c'est pas, c'est de l'algorithmie comme d'autres. C'est salaire de base, $300,000.
J'ai raté, j'ai pas pris la bonne carrière, moi.
On a tous raté le train, clairement. Je pense que les choses sont claires. Enfin, après tout, mais il faut pas oublier que c'est $300,000 payés dans la Silicon Valley, où un couple fait moins du $1,000,000 par an, ils sont middle class. Non, c'est pas le $1,000,000, je crois que c'est 500 000. C'est ça, en dessous de 500 000, c'est plus dur. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles dans le temps de salaire.
Oui, bien sûr.
Bon, peu importe. Mais il y a plein de gens. Et ce que je veux dire, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'Apple est tout sauf une start-up. Ils ont des développeurs à plus savoir qu'en faire. Ils ont les moyens de débaucher absolument qui ils veulent sur la planète entière. Ils ont des moyens à peu près illimités. Et pourtant, je voyais des chiffres là qui sont sortis. L'entreprise désormais qui dépense le plus en R&D dans le monde, c'est Amazon.
C'est Amazon, 23 milliards de dollars.
Alors, dedans, il y a les contenus. Donc, ça veut dire aussi les dépenses de contenu pour Prime Video, etc.
Oui. Entre parenthèses, ils vont dépenser un milliard sur la série Lord of the Rings. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais bon, ils ont 5 saisons de prévues déjà, mais 1 milliard sur la série, dont 200 millions, je crois, pour avoir les droits. Enfin, bref, ça, c'est Amazon. C'est la démesure totale.
Moi qui n'ai aucune fascination pour le Seigneur des Anneaux, je comprends pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Je comprends pourquoi ils le font.
Ouais. Pour pas passer trop de temps sur l'intelligence artificielle, simplement, effectivement, ils ont débauché quelqu'un d'important. Toi, tu penses que c'est pas forcément la clé. Il y avait d'autres problèmes, quoi.
Non, mais ça suffira pas. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui suivent et surtout qu'ils prennent la décision stratégique, que Siri est quelque chose de stratégique. Mais
c'est ça, en fait. C'est ça que ça signale pour moi, à mon sens.
Oui,
pour moi, à mon sens, de mon humble avis qui me concerne que moi, je pense que c'est finalement une indication que là, ils ont compris qu'ils ont besoin d'avoir un Siri performant. Ils ont compris que, quoi qu'ils aient fait pendant des années, ils ont dû essayer différentes méthodes internes et ça n'a pas fonctionné. Et là, ils se sont dit, bon, OK, il faut quelqu'un. J'ose même pas imaginer combien ils l'ont payé pour le faire quitter Google. Et il faut qu'on revoie les choses de fond en comble. Et ça, c'est ce que ça signale. Mais bon, je me trompe peut-être.
Peu importe qu'ils prennent 2 millions, 3 millions, 5 millions, plus une montagne de stock. Enfin, c'est une question, chez Apple, c'est juste une question de décision. L'intendance suit derrière.
Ouais.
Pour la petite histoire, Apple a investi à Londres un sublime appartement, mais un truc, c'est même pas un appartement, enfin, c'est un duplex absolument gigantesque. Le salon doit faire 180 mètres carrés. Enfin, c'est, voilà, dans un chouette quartier. Je vous en dirai pas plus. Quand on y est, c'est là où on va pour se faire des démos. Alors évidemment, dans des conditions absolument merveilleuses, parce que tout est magnifique. Tu vois, une démo d'Apple TV quand tout est câblé et que c'est Apple TV qui ferme les volets, c'est pas mal. Et évidemment, on était plusieurs à se dire, mais combien ils ont payé pour cet appart et la déco et tout ça. Et à la fin de la foire, c'est si c'est 1 million ou si c'est 10 millions, c'est pareil.
Oui, bien sûr, non, c'est sûr.
C'est sûr. Voilà, si la décision est prise, bon, ben voilà, c'est le prix. Voilà,
ouais, bien sûr.
Et ben là, c'est pas.
Non, ben là, effectivement, oui, c'est sûr que la décision a été prise et donc ils ont eu John Gianandrea. Une autre chose, toujours chez Apple, qui est même peut-être encore plus importante, c'est ces informations, ces rumeurs, selon lesquelles Apple serait en train de planifier la conception, ou plutôt la fabrication, de leur propre processeur pour Macintosh d'ici à 2020, et donc ils n'utiliseraient plus les processeurs Intel. Alors évidemment, l'action d'Intel a dévissé au moment où ça a été cette rumeur a été sortie. Et finalement, on en parle depuis un bon moment, mais ça serait encore plus cohérent aujourd'hui. Intel a jamais vraiment réussi à répondre aux besoins des processeurs, enfin des constructeurs qui voulaient des processeurs qui consommaient très peu. Alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on n'est toujours pas à un niveau qui soit complètement satisfaisant. Apple fabrique ou conçoit ses propres processeurs depuis un bon moment pour les appareils mobiles, les fameux A1, A2, aujourd'hui on est à A11. Et puis, il y a le projet Marzipan qui permettrait de faire tourner les applications iOS sur macOS, qui pourrait peut-être même signaler le début d'une convergence entre les deux systèmes. Est-ce que toi, tu y crois à cette idée que Apple fabrique ses propres processeurs? Et si c'est le cas, est-ce que ça sera des processeurs x86, donc type Intel et ordinateur classique, ou des processeurs ARM, qui sont des processeurs mobiles? Et est-ce que ça ferait basculer du coup au moins une partie de la gamme Mac sur processeur ARM? Un énorme changement, quoi.
Ce serait un énorme changement sur est-ce que Apple y réfléchit? Apple y réfléchit depuis le premier jour. Un, où ils ont signé avec Intel. Deux, où ils ont eu de leur propre capacité de design de puces, parce que c'est des puces basées sur une infrastructure ARM, ce qui veut dire qu'en gros, ça te permet de customiser complètement l'architecture selon ce que tu veux faire avec. Ça pose plein de questions. Est-ce que ce serait du ARM ou du x86? On voit mal Apple être juste comme une espèce de AMD en plus, quoi. Ou alors, faut juste racheter AMD, c'est pas très cher. Non mais c'est vrai.
Non, non mais plus, oui, pour bon. Comme tu disais tout à l'heure, 1 million, 10 millions, c'est la même chose. Voilà. Pour un Apple, milliard, un milliard, 10 milliards, c'est pareil. Ouais, voilà.
C'est un peu pareil, tu vois. Est-ce que la tentation de l'intégration verticale, comme on dit chez Apple, elle est constante? Maîtriser de bout en bout ce qui va dans la machine, c'est constant. Mais moi, je me serais attendu, par exemple, à ce qu'ils s'intéressent plus aux écrans, parce que pour l'instant, les écrans sont des choses qui sont produites dans des usines qui ne sont pas les leurs. Et pourtant, ils en consomment énormément. Ils sont le premier consommateur d'écrans au monde. Sinon, ils font pas de télé. Enfin, pas encore.
Toujours, tu lâches pas l'histoire de la...
Non, il y a encore eu des histoires le mois dernier sur ils travaillent sur le micro LED, etc. Bon, mais ça, on y
reviendra.
Oui,
le micro LED, ça peut servir à d'autres choses que des télés, hein, mais...
Exactement.
Oui, mais tu sais, la différence, c'est que la télévision, c'est vraiment du design industriel matériel. Évidemment, les processeurs aussi, mais les processeurs, c'est designé. Ça peut presque être designé dans un bureau, tu vois. C'est de la logique.
Mais après, il faut les faire. Après, il faut les fabriquer.
Ah oui, mais après, tu donnes ton design à une usine et eux,
Non. C'est comme pour faire un iPhone. La moitié du travail du design industriel de l'iPhone, c'est pas tant de faire le design de l'iPhone, c'est de faire le design des machines qui vont fabriquer l'iPhone.
Ouais.
Et ben là, c'est pareil. La moitié à la louche, évidemment, de ce que, par exemple, Intel dépense en R&D sur ses processeurs, c'est le design du processeur d'un côté et le design des fabs de l'autre. Parce que on sait que ça y est, ils vont passer à du comment on appelle ça, à du 7 nano. Mais 7 ouais. nano, enfin c'est-à-dire que t'as des circuits où tu vois tout à coup il va finir par y avoir 3 atomes, c'est un peu compliqué, ou 5. Et là-dessus évidemment, des gens comme Intel ont une très très large avance en termes de technologie pure. C'est-à-dire que d'abord pour que Apple puisse switcher à ses propres puces, il faut qu'elle soit au moins aussi bonne. On est d'accord. On supporterait pas
d'avoir
juste une puce Apple à l'intérieur.
Je sais pas, parce que ils peuvent, voilà, exactement. S'ils te font un MacBook Air, tu vois, un nouveau modèle de MacBook Air, qui certes ne sera pas.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Aussi puissant qu'un modèle qui aurait un processeur Intel. Mais par contre, il va avoir 30 heures d'autonomie, ce qui est pas non plus totalement impossible. Les gens se diraient peut-être, bon bah voilà, je charge mon ordinateur une fois par semaine et j'ai plus à m'emmerder à le trimballer. Évidemment, ça marcherait pas pour tout le monde, mais dans certains cas, je pense qu'on pourrait accepter des processeurs et Apple qui soient moins performants que les équivalents chez Intel.
Le problème, c'est que s'ils le font, Je n'ose imaginer qu'ils ne le fassent pas pour toute la gamme en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un switch stratégique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi que les développeurs suivent. Et là, il y a un boulot faramineux pour tous les gens qui ont fait des applis sur Mac. Alors évidemment, il y aura des SDK géniaux, etc., qui vont dire « je vous fais les plusieurs versions ».
Vous recompilez le truc facilement, machin.
Voilà, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais dans la vraie réalité vraie, les gens vont essayer de travailler quand même sur un seul set de binaires. Donc, je veux dire, pour que ça ait du sens, il faut qu'ils le fassent sur toute la gamme en même temps. C'est-à-dire qu'il faut mon MacBook Pro 15 pouces, il va falloir que mon futur MacBook Pro 15 pouces avec un processeur Apple marche au moins aussi bien que la même chose avec un Core i7 ou un Core i9.
Ouais, mais ça sera pas possible, effectivement. Là, je vois pas le truc arriver, donc.
Et il est là le problème. C'est-à-dire que si on savait faire, aussi bien qu'Intel pour moins cher et chacun dans son coin, ben Intel n'existerait plus depuis longtemps. Or, eux, ils mettent bien 10 milliards par an de R&D sur leurs puces. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... pendant longtemps, je disais que c'était du wishful thinking, comme on dit. C'est-à-dire, ouais, vous avez très envie que ça arrive et tellement envie que vous pensez que ça va arriver. Ça, voilà. Alors, peut-être
pour toi, c'est pas plus probable maintenant qu'il y a 5 ans.
Si, bien sûr. Ah, si, c'est bien plus probable parce que d'abord, la convergence en termes de puissance commence à, on n'y est pas, mais c'est beaucoup plus crédible que ça l'était au
début.
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire que même un processeur ARM commence à être correctement puissant. On en parle depuis peut-être 3 ans. On dit, ah ben voilà, le dernier iPhone, il est presque aussi puissant que machin. Aujourd'hui, si on attend encore, on parle de 2020, si on attend encore 2-3 ans, on arrive à un niveau acceptable, quoi.
C'est pas inimaginable, mais par contre, je serais très en colère si Apple disait voilà, ça y est, on switch avec ARM parce que nous avons notre nouveau processeur. Allez, ce sera pas A parce que A c'est vraiment la série des smartphones, mais voilà, M comme Mac, notre processeur M1. Si c'est ça le nom du processeur quand il sort, vous me donnez tous une bière, hein. notre processeur M1 machin, regardez, nous avons fait des benches absolument remarquables, regardez, on bouge des filtres sous Photoshop. Si tu t'aperçois après que ouais, mais finalement il est quand même 30% moins véloce sur plein de choses que tu faisais avant, que ça marche pour plein de trucs mais pas pour le jeu, bref, il faut pas que ce soit une solution au rabais, sauf justement, et là t'as raison, si ça ne concernait qu'un nouvel entrée de gamme, parce que c'est là aussi où ils ont un vrai souci. On parlait du marché de l'éducation encore récemment avec
on en a beaucoup parlé à l'épisode précédent.
Voilà, le entre guillemets nouvel iPad. Là, tout à coup, si ça servait à dire, regardez, on vous a sorti des MacBooks, on a mis nos puces dedans et ça nous permet de faire un MacBook à, allez, 4,99, pas sûr, 5, allez, 4,99. Là, tout à coup, tout le monde s'y retrouve.
J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à ton scénario. Moi, je pense que aujourd'hui, d'une part, les MacBooks à 500 ou 600 euros, jamais de la vie. Ça, j'y crois pas du tout.
J'attends pour aujourd'hui au bureau un laptop à 100 euros. Hein, donc
Oui, non, mais d'accord, mais on faudra voir ce que c'est. Mais surtout, je pense que la question de la puissance est une question qui préoccupe très 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 peu de gens et que la plupart des utilisateurs n'en ont rien à faire. La plupart des utilisateurs, comme on le sait tous, ils utilisent le navigateur, le mail, Facebook et voilà. Et pour la plupart des utilisations, à part peut-être, on va dire, les jeux, et sur Mac, les jeux, franchement, voilà, et le calcul 3D, parce que même le montage vidéo, aujourd'hui, c'est très possible à faire sur des machines qui tournent avec des processeurs ARM d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, la question de la puissance ne va pas vraiment être aussi problématique que tu sembles le croire. Et on arrive à un plateau, d'ailleurs, je voulais en parler dans le sujet suivant, mais peut-être qu'on peut en parler maintenant. Les nouveaux processeurs Intel de 8e génération sont désormais disponibles. Ils sont sortis avec pas énormément de bruit. Il y a peu de gens que ça intéresse et il y a très peu de différence avec ceux d'avant. On a un plateau de puissance depuis un bon moment déjà, mais encore plus aujourd'hui, qui fait que au fur et à mesure que les processeurs ARM rattrapent leur retard, ils vont arriver aussi à ce plateau de puissance au-delà duquel, finalement, la puissance supplémentaire est accessoire. Ça sert pour certaines personnes, mais pas pour beaucoup de monde. Et comme on le sait bien, Apple s'intéresse au grand public et donc il n'est pas totalement impossible qu'il abandonne l'idée d'une puissance monumentale. Ils vont dire, bon, on est... presque aussi puissant avec leur démo bien arrangé, on est genre 3% plus puissant que tel truc dans telles conditions, mais ça ils vont pas le dire. Et au final la machine sera 30% moins puissante, mais elle aura une durée de vie plus longue ou d'autres avantages qui compenseront. Moi je crois à ce scénario, je sais pas si ça sera 2020 ou si ça arrivera, mais si ça arrive, je crois à ce type de scénario. Bon, on verra.
Ouais, on verra.
Dernière news rapide, les Mac Pro, pour ceux qui attendent, pour les fans d'Apple qui veulent encore des machines professionnelles en Mac, les Mac Pro n'arriveront pas cette année, mais en 2019. Les nouveaux Mac Pro, vous vous souvenez du Mac Pro poubelle là, qui était sorti et qui a plus pas été mis à jour depuis quoi, 2012, 2013. Les prochains arrivent, hein, ils ont dit qu'ils arriveraient, mais pas avant 2019, donc bon courage. On va faire
depuis, depuis on a l'iMac Pro qui déchire. Quoi.
Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et qui aurait pensé qu'un iMac serait aussi puissant? On va faire une petite pause pour remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Vous savez que cette émission est entièrement financée par ses auditeurs et n'a aucun sponsor ou société tierce qui vient nous donner de l'argent. Donc, c'est grâce à vous que l'émission tourne et je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui Tony Rangling, Marco Polo, Damien Baudet, Nicolas Poulot, Jean-Baptiste Aubert, Anthony Sûr ou Chour, ah, Anthony Chour, c'est le mec Chour, François Dehaib, Olivier Claude, Jérémy Capaces et Nurbex Fine Arts Photographie. Merci à vous tous et si vous aussi vous pensez que l'émission est sympathique et vous fait passer un bon moment, essayez de considérer l'idée de passer sur patreon.com/rdvtech et de donner un petit dollar par épisode. C'est pas grand chose mais chaque dollar compte et le lien est dans les notes de l'émission évidemment.
Surtout maintenant que tu t'es payé un ranch en Finlande.
Ah bah oui, non mais évidemment, les vaches ne mangent pas... Ah si, ça mange de l'herbe, merde. Bon, mais ça n'empêche. Les news et rumeurs...
Tirer la fibre, ça a dû coûter atrocement cher.
Ah bah oui, ça, mais c'est déjà payé. Mais bon, mais oui, effectivement, ça a pas été bon marché, mais c'était indispensable, comme vous vous en doutez. News et rumeurs, donc, Google et Apple, allez, des bonnes nouvelles quand même, on n'a que des nouvelles catastrophiques depuis des semaines, ils ont annoncé tous les deux que l'ensemble de leurs besoins en énergie étaient couverts par des énergies renouvelables. On est prompt à critiquer les sociétés de la tech, avec raison, généralement et souvent. Eh bien là, peut-être une bonne chose, tous leurs besoins en énergie sont couverts par des énergies renouvelables. Quand c'est possible, c'est directement avec de l'énergie renouvelable consommée. Quand c'est pas possible, parce que c'est ça qui m'a surpris, moi je me suis dit « Ah bah oui, mais c'est juste pour leur bureau, où il y a leurs employés en Occident, tout ça. » Non, en fait, c'est y compris, dans le cas d'Apple en tout cas, mais je pense que c'est le cas des deux, y compris pour la fabrication des appareils, les usines, tout ça. Et quand c'est pas possible dans certaines régions, eh bien, ils achètent des sortes de bons d'énergie renouvelable
crédit CO2 quoi.
Voilà, c'est une sorte de crédit CO2, exactement.
Ouais, ils font de la compensation, comme tu peux faire de la compensation quand tu prends un vol en disant je vais acheter l'équivalent CO2, voilà, et on va aller planter des arbres en mon nom. C'est pas mal.
C'est bien, hein, petit peu de positivisme.
C'est parfait.
Ouais, une bonne nouvelle.
Moi, j'attends que toute la Gigafactory de Tesla soit ouverte parce que ce sera à la fois la plus grande usine du monde et la plus grande ferme solaire au monde. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent que 100% de leurs besoins en énergie locale, cette fois, seront couverts par des énergies 100% renouvelables. C'est absolument remarquable, surtout quand on fait le vrai faux procès aux voitures électriques, de dire « Ah, mais ça consomme vachement de CO2 de les produire. » Ah bah oui, mais plus maintenant.
Ouais. Non, mais tu sais, ça va même plus loin, ça va dans les... C'est un argument finalement en marketing aussi, au-delà de la bonté évidemment innée de ces sociétés, c'est que quand tu utilises leurs services, il y a énormément de problèmes, énormément de défauts, on le sait, mais au moins, au minimum, tu te dis « Bon, bah... » Ces trucs-là, pour ces sociétés, ça pollue pas plus que, enfin, ça pollue pas, tout simplement. C'est des énergies renouvelables. Ouais, donc, un produit Google. On parle de produits physiques, hein, de matériel ou de services, parce que dans le cas de Google, ça fait tourner les data centers.
Les data centers. Hein. Voilà. Donc, c'est remarquable. Alors autant sur les data centers, on se pose toujours la question. Eux se posent toujours évidemment la question de leur implantation, parce que. Par exemple, tes data centers, c'est chouette de les mettre au nord des États-Unis parce que tu vas avoir de l'hydro. Il fait froid, donc tu dépenses beaucoup moins en clim, voire pas du tout. Et puis en plus, tu vas être à côté de une ou deux centrales hydroélectriques, donc tout à coup, tes sources d'énergie sont nettement plus propres. Mais c'est vrai que aller jusqu'à compenser la consommation de CO2 de tes usines en Chine, où là, tu peux pas, tu contrôles pas la source de l'énergie, c'est pas mal. Bon, je pense que ça doit être déductible des impôts.
C'est très possible, ouais. Il ne gâche rien, effectivement. Le Huawei P20 sur lequel tu es en train de parler en ce moment, on commence à arriver, à voir arriver les premières reviews et ça a l'air hyper positif. On en parlait un petit peu à l'épisode précédent avec l'histoire des trois objectifs qui avaient l'air un peu anecdotiques, mais pas forcément. Pas forcément, pas, comme pas le disait ça, Jérôme. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est un téléphone qui a l'air d'être l'un des meilleurs téléphones Android du moment, quoi.
De l'année jusque-là, en tout cas. On n'est jamais à l'abri de surprises, mais ils ont fait des efforts absolument déments sur la photo. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est une stratégie constante chez Huawei. Moi, j'ai interviewé le patron, Richard Yu, qui me disait, bah, c'est simple. De toute façon, ce qui intéresse les gens dans un smartphone, c'est deux choses. C'est la photo et l'autonomie. Le reste est assez accessoire et le reste est beaucoup moins différenciant quand tu es dans le monde Android. Et ça, je le comprends très bien. Et de fait, ça fait des photos, c'est amazing, quoi.
Et deux jours d'autonomie, d'après ce que je comprends, dans le test de The Verge, est-ce que tu as eu la même expérience ?
Écoute, le mien est souvent branché parce que du coup, j'utilise Android autour de la voiture, etc. Mais non, j'ai fait l'expérience, moi, juste après l'avoir eu, je l'ai chargé à 100% une nuit. Je me suis levé un jeudi matin, il se trouve que le jeudi matin, c'est le jour où je me lève à 4h du mat. Donc voilà, j'ai passé toute ma journée avec, je suis rentré le soir, il était quoi, 18h30, et il me restait encore 60% de batterie.
Donc, écoute,
voilà,
ça a l'air plutôt positif.
Non, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas du benchmark, mais je peux te dire de façon empirique que tout à coup, sur le P20 Pro, c'est-à-dire celui qui a une batterie de 4000 mAh, tout à coup, l'autonomie est plus un problème, quoi. C'est pas, y a pas un moment dans la journée où tu vas dire, ah, il faut que je le branche, il est 16h, tu vois. Non, ça n'existe pas.
Oui, on parle du P20 Pro, tu fais bien de le préciser, ouais.
Oui, celui qui a les trois objectifs, celui qui a tout ça, parce que, Le P20 m'intéresse un peu moins. C'est ce qui est intéressant sur le P20 Pro, c'est le troisième objectif, le très très gros à l'échelle d'un smartphone, capteur photo. La qualité des photos qui en sort est absolument remarquable. Alors là aussi, il y a beaucoup d'algorithmies. Ils en parlent énormément. Là où tu vois sur ton iPhone, tu passes en mode portrait pour faire un portrait, lui il détecte un visage, il passe tout de suite en mode portrait. Donc ça a un petit côté. Tu sais, comment ça s'appelle les photomatons japonais?
Polycolor.
Voilà, exactement. Qui tout à coup te font des photos où tu as un teint de pêche absolument magnifique. Bah là, c'est un peu ça. Par défaut, il fait ça. Alors, tu peux le doser, tu peux le désactiver, bien évidemment. Je suis pas encore allé au bout, je dois dire, de toutes les fonctions dans la photo. Il y en a qui sont vachement bien pour faire du scan de documents. T'as pas besoin d'avoir une application en plus. Enfin, non, ils ont fait un boulot remarquable. Le smartphone en lui-même est vraiment, vraiment bien foutu. Enfin, il est agréable comme tout. Très bel écran. Non, je trouve pas la faille. Et il est un peu moins cher que ses grands concurrents. Alors après, faut aimer Android et faut aimer l'implémentation d'Android que fait Huawei. Et là, je suis un petit peu moins fan. Si je devais choisir, pour moi, le téléphone parfait, enfin le téléphone Android parfait, ce serait celui-là avec un stock Android. Tu vois, un Android pur, comme on dit, comme ce qui existe sur les Nokia, qui résout en plus les problèmes de délai de mise à jour et tout ça. Mais allez le voir en magasin si vous pouvez, essayez de faire quelques photos avec, c'est quand même... La photo de nuit sur ce truc-là est un truc absolument saisissant, c'est-à-dire que c'est des choses que j'arrive pas à faire avec mon Canon, sauf à avoir un pied, sauf... Voilà. Mais c'est remarquable, c'est un super téléphone.
Bon, bah écoute, donc... Bonne surprise que ce Huawei P20 Pro peut-être à regarder si vous voulez changer de téléphone bientôt. News suivante, c'est les DNS. On va vous parler un petit peu de DNS. Les DNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le serveur qu'utilise votre ordinateur pour traduire le nom d'un site web auquel vous voulez accéder en adresse IP, c'est-à-dire l'adresse avec quatre chiffres, 128.172.210.4. Ça, c'est une adresse IP, c'est l'adresse que l'ordinateur comprend.
Sur ton réseau local.
J'ai dit 128. C'est pas réseau local.
D'accord.
Non, c'est pas 192.168.0.1, n'est-ce pas? ce que je disais, c'est que il y a les DNS qui sont, en fait, il y a des tonnes de DNS partout dans le monde, et la traduction du nom google.com ou apple.com ou huawei.com ou là où vous voulez accéder, ou tf1.fr par exemple.
Ou lci.fr.
lci.fr, au hasard. Au hasard. En adresse IP, eh ben, elle se traduit en clair. Même si votre site est en HTTPS, en sécurisé, en chiffré, eh bien, la traduction se fait en clair. Et donc, les DNS, en fonction de qui opère le domain name server, eh bien, on peut utiliser ces données pour bah, tout plein de choses. Et donc, il y a plein de gens qui utilisent différents types de DNS, soit parce qu'elles sont plus rapides, soit parce qu'elles sont opérées par d'autres personnes, soit parce qu'ils sont, ils font pas confiance à leur DNS. Il y a plein de raisons. Google avait une DNS que n'importe qui pouvait utiliser depuis longtemps, c'est la 8.8.8.8, je crois qu'ils ont 4.4.4 aussi. Je crois qu'ils ont
non, c'est 4, il y avait aussi 4.4.8.8, si je me souviens bien.
Ah, d'accord. Voilà. Et, mais sauf que Google, eh ben,
il y a eu pendant très longtemps, OpenDNS, dont les adresses sont moins mnémotechniques, mais qui marchaient remarquablement bien et qui étaient dans l'ensemble plus rapides aussi.
Et là, et il y a aussi d'ailleurs Quad9 dont parle Corben dans l'article que, auquel je me réfère, qui est là aussi une organisation à but non lucratif qui opère cette DNS. Et il y a désormais Cloudflare qui a chopé l'IP 1.1.1.1 qui appartenait à une organisation non gouvernementale aussi, mais en fait le problème c'est qu'elle était inutilisable parce qu'il y a plein de gens qui utilisent 1.1.1.1 pour faire des tests, pour envoyer du travail, donc ils pouvaient pas l'utiliser. Et Cloudflare, c'est une société qui gère justement l'excès de trafic, donc c'est sans doute l'une des seules sociétés, il y en aura peu, qui peuvent utiliser cette IP en faisant quelque chose. Et donc, ils ont décidé d'en faire une DNS. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'engagent à ne pas revendre les données et ils ne conservent pas les logs plus de 24 heures. Alors, eux, peut-être ensuite, qu'ils se servent des données pour leur sauce interne. Eux, ils gèrent les gros volumes de trafic sur Internet. Donc, ces informations seront importantes pour eux, possiblement. Donc, c'est pas entièrement anonyme. Enfin, les données peuvent être utilisées, mais dans un cadre qui est a priori à peu près cachère. Hein. Cloudflare, c'est une société qu'on connaît et à laquelle on fait quand même relativement confiance. Mais voilà, donc si vous voulez utiliser une DNS sympa, je vais pas rentrer dans les détails de la manière dont ça se passe parce que n'importe qui.
C'est pas très compliqué, hein.
Vous non, avez mais je pense que les gens qui.
Configuration automatique, vous passez en manuel et vous mettez 1.1.1.1 comme serveur DNS et ça marche. Ça permet aussi de régler certains soucis quand vous avez. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont mis à jouer un peu avec le DNS, qui est un peu une des vaches sacrées de l'Internet, hein, dans l'ensemble de DNS. Donc par exemple, il y avait des fournisseurs d'accès qui, tout simplement, quand tu faisais une erreur d'adresse, je sais pas, tu faisais tff1.fr, plutôt que de dire ah bah non, erreur 404, cette page n'existe pas, bah ils te renvoyaient sur leur propre site ou sur un site avec des pubs. Donc là, tout à coup, voilà, c'était le grand mérite de Google quand ils l'ont fait, mais eux le faisaient aussi pour des raisons statistiques. Sinon, que je ne sais pas s'ils rattachaient ça à ton compte, j'en suis pas absolument certain. C'est pas mal. C'est intéressant. Et puis ça permet de régler des problèmes quand t'as des DNS un peu curieux, quand tu voyages, par exemple.
Oui, ça peut être très utile effectivement quand on ne sait pas sur quel réseau on atterrit. Donc 1.1.1.1.
Voilà.
Là, pour le coup, facile à retenir. Tu te souviens des Steam Machines, les machines, les ordinateurs qui étaient conçus par Valve pour être des machines de jeu? Eh bien, elles ont disparu du store Valve. Et alors, Valve dit non, mais si, SteamOS, on est toujours en train de s'y intéresser. Et si, on continue à fond, SteamOS est toujours présent. On se souvient que SteamOS, en fait, avait été développé pour contrer Windows au début au lancement de Windows 10, quand il semblait que le Windows Store allait devenir le seul moyen facile d'installer de nouvelles applications. Et du coup, Valve avait été paniqué parce qu'ils disaient mais attendez, nous on a un store en fait aussi et on veut pas que Windows ait son propre store et que on puisse plus installer d'applications facilement par notre store. Enfin, en l'occurrence, c'est que des jeux pour Valve, mais bien sûr, ça aurait été compliqué. Il s'engouffre dans la brèche SteamOS. Le problème, c'est que SteamOS pour se découpler de Windows, eh ben, il tourne essentiellement sous Linux. Et les jeux qui sont développés sous Windows ne tournent pas sous Linux. Il faut les développer spécifiquement sous Linux. Donc, SteamOS n'a pas connu, on va dire, le succès qu'auraient pu espérer certains. C'est toujours le même problème hein, quand on parle de Linux. Et là, il semblerait que... Alors, Valve dit « si, on est toujours à fond dessus ». Moi, je commence à me dire que aujourd'hui, que cette histoire de Windows Store, exclusivité d'installation par Windows Store, semble s'être un petit peu éloignée. Moi, je crois qu'il lâche un peu l'affaire sur SteamOS et les Steam Machines.
Je pense aussi.
Ouais. Bon, on est d'accord sur ce coup. Il y a eu un article intéressant qui parler des jeux de chirurgie plastique destinés aux enfants. Je ne sais pas si tu as vu ce nouveau...
Non.
Ben écoute, c'est visiblement une tendance assez importante ces derniers temps, des apps qui sont des jeux de chirurgie esthétique, en fait. Et c'est destiné aux enfants, c'est pas juste un truc qui aide les chirurgiens à montrer à quoi vous ressemblerez après votre coup de scalpel, c'est vraiment des jeux, genre le truc Nose Doctor Fun Kids Game, Celebrity Plastic Surgery Hospital, Little Skin Doctor Treatment Game et ce genre de trucs. Visiblement, il y en a de plus en plus, ça plaît beaucoup aux enfants et donc les experts sont en train de tirer la sonnette d'alarme. J'en parle parce que c'est intéressant de faire le parallèle avec les histoires de YouTube et les animations destinées aux enfants qui étaient un petit peu bizarres. Là, on est quand même clairement dans un truc qui est, enfin, j'allais dire à la frontière du malsain, mais je crois qu'on a dépassé la frontière, en fait. C'est pas malsain, c'est juste inquiétant, quoi.
Je crois qu'on est déjà du mauvais côté de la frontière. Mais peut-être que nous sommes aussi, toi et moi, en train de devenir des vieux cons. Il faut aussi faire face à cette réalité-là.
C'est marrant que tu dises ça parce que quand j'ai lu cet article, je me suis dit, ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, les vieux de mon âge, de l'âge que j'ai aujourd'hui, paniquaient sur les FPS et les jeux de tir où on devait massacrer des méchants, des zombies, machin. Ça se trouve, les enfants, ils voient ça, ils disent, bah, attends, je sais bien que je vais pas aller me faire plastique. Charcuter le nez parce que j'ai joué à un jeu de chirurgie esthétique, t'es con quoi. Peut-être pas dans ces termes, quoi, j'espère, mais.
C'est ça. Papa, tu fais chier, ça va. Quoi. C'est bon. non, mais c'est vrai. Donc, peut-être qu'on s'affole pas pour quelque chose qui est finalement. Tu vois, c'est comme nos parents à nous qui s'affolaient peut-être sur, je sais pas, les films d'horreur par exemple. Et finalement, on a survécu dans l'ensemble. Ouais, ouais. Mais oui, c'est quand même d'un goût un peu douteux.
Oui, au minimum, on va dire d'un goût douteux, effectivement.
Voilà. Bon.
Les frasques de Donald Trump, il est en train d'implémenter des taxes douanières de la Chine. Pour les importations de la Chine, on sait qu'il n'était pas très fan du déficit commercial qu'a les États-Unis avec la Chine depuis un moment, et il est en train donc d'implémenter ces taxes dans des domaines bien sûr qu'on peut imaginer, c'est-à-dire essentiellement la technologie, l'aérospatiale, les machines, etc.
Et logique.
Et ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, ou quelques jours après, Xi Jinping a annoncé que lui, il allait au contraire relâcher les barrières douanières. Et là, c'est vraiment... enfin. Et en même temps, c'est marrant et pas marrant, il se met à attaquer Amazon du jour au lendemain. Là, on reparle de Donald Trump. Il se met à attaquer Amazon en disant qu'il ruine le service postal américain. Bien sûr. Que là où on a tendance à penser que les géants de la tech ruinent le monde réel, eh ben en fait, il est assez probable que la seule raison pour laquelle le service postal américain est encore capable de travailler, c'est justement la livraison à domicile des choses achetées par Internet. Et évidemment, dans ce domaine, Amazon représente une immense majorité du trafic. Et alors, il y a des gens qui disent « oui, mais il pourrait avoir un meilleur deal avec Amazon et gagner plus d'argent ». Mais le service postal a confirmé qu'il gagnait de l'argent, donc il ne travaillait pas à perte avec Amazon et qu'il gagnait de l'argent sur ses contrats.
Donc, bien sûr, enfin, Il y a des fois, on se demande de quoi on parle. Non, bien sûr, Amazon fait perdre de l'argent à plein de gens, hein, mais pas aux services postaux et pas aux services de livraison. Mmh. Même si là aussi, ils ont une grosse tentation d'intégration et enfin, ils ont envie de pouvoir un jour tout faire eux-mêmes. Et ils ont déjà, je crois, leur flotte d'avions. Ils ont déjà.
Oui, tout à fait. Ils sont en train de préparer un service de livraison maison aussi, ouais.
Voilà. Donc c'est normal, mais en même temps ils remplaceront pas tout le monde partout. Et c'est quand même apparemment, en tout cas grâce à Amazon, que la Poste américaine a remis en place son service de livraison du samedi, par exemple, qui n'existait plus avant. Donc voilà. Enfin, qu'Amazon fasse perdre de l'argent à du commerce de détail, dont certains sont des potes de Donald Trump, ça c'est pas discutable.
Mais ouais, c'est possiblement un peu plus vicieux. Hein. Jeff Bezos, en son nom personnel, est le propriétaire du Washington Post, qui n'est pas particulièrement oui. gentil à l'égard de Donald Trump. Donc bon.
Fake news.
Voilà, c'est ça.
I declare this is fake news.
Mark Zuckerberg, on en a déjà parlé, on va pas trop reparler, mais il va témoigner devant le Congrès américain ce jour, aujourd'hui, je crois, on est mardi,
dans les heures qui viennent.
Voilà, ok, et il pourra répondre à des questions, mais il a publié son témoignage, la déclaration qu'il va faire devant le Congrès. C'est une déclaration préparée, hein, c'est normal, ça se passe comme ça, et ensuite ils vont ouais. poser des questions. Et comme on disait tout à l'heure, bon, il y a un petit peu de mea culpa, mais on a vu également des articles qui détaillait le nombre de mea culpa qu'a fait Mark Zuckerberg au cours des années. Et c'est marrant parce qu'ils sont remontés jusqu'à FaceMash. FaceMash qui était le premier, l'ancêtre de Facebook, on va dire, c'était une sorte de hot or not avec les photos des étudiants de... C'était Harvard ? Je sais plus où il était. Enfin, Harvard ouais. ou Princeton, l'une
oui,
des
Harvard,
deux.
Oui, Harvard.
Harvard, oui. Et il s'était excusé. C'est marrant parce que les excuses, le langage des excuses, c'est assez proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, d'un côté, moi, j'ai envie de croire qu'ils ont compris la leçon, mais en même temps, quand on voit qu'ils... C'est fool me once, shame on me. Fool me 14 times. Pardon, c'est fool me once, shame on you. Fool me 14 times, c'est un peu shame on me au bout d'un moment. Donc,
Ah oui, clairement. Son premier intérêt à Zuckerberg, c'est que dans l'ensemble, rien ne change.
Mais là, je crois qu'ils peuvent plus. Là, je crois que il y a cette réalisation de. Bon, on va pas refaire le sujet sur les algorithmes et machin, mais la réalisation de. On n'a pas été. On a merdé, quoi. On n'a pas géré les choses comme il fallait et on n'a pas été assez responsable. Et c'est normal, tu vois, quand t'es jeune et insouciant et plein d'énergie et fougueux. Non, mais c'est exactement ça. Tu y vas et tu go fast et tu break things.
Voilà.
Et puis, au bout d'un moment, un petit peu après l'adolescence, on va dire, au début de l'âge adulte, tu te rends compte que les actions ont des conséquences. Et je me demande si là, on n'est pas enfin arriver à cette étape-là de la vie de Facebook et de Zuckerberg. Peut-être pas, hein. Je me trompe peut-être, mais je me pose la question. Il est quand même convoqué devant le Congrès. Je sais que c'est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Mais enfin, merde, quand même, quand t'es convoqué devant le Congrès pour témoigner, qui que tu sois, tu fais un peu sur toi quand même. Tu reconsidères les choses.
Ah bah, là, surtout c'est pas le plus grand, tu vois, c'est pas le plus grand orateur de la tech en général. Mmh. Je pense pas qu'il aime l'exercice, mais alors du tout. Il va se retrouver quand même sous un feu de questions, pas forcément confortable. Donc non, c'est pas sa plus, c'est pas, ça va pas être sa journée la plus sympa de la semaine.
Il n'en a pas eu beaucoup des journées sympas, je pense, depuis quelques semaines. Mais enfin bon, en même temps,
oui, mais enfin, il aurait pu anticiper un peu.
Et enfin, on parlait des Chromebooks il y a une semaine, justement, en parlant d'éducation. Il y a, je parle de ce sujet pour deux raisons. D'une part, HP sort un Chromebook qui a un clavier détachable et un stylet. On parlait des tablettes. Et ben, bon, là, c'est un Chromebook tablette. Il coûte quand même $600. Donc, c'est pas non plus l'entrée de gamme. Ça sera disponible en juin. Il a l'air sympathique et il y a plusieurs retours d'auditeurs qui nous ont confirmé que même dans l'éducation française, il y avait quand même pas mal d'initiatives avec des Chromebooks notamment dans les écoles en France. C'est pas uniquement aux États-Unis. Donc c'était, alors c'est pas à la même échelle, je pense. Et c'est sans doute, comme on le disait la dernière fois, le problème, c'est que c'est toujours un peu localisé. Il n'y a pas d'initiative nationale, mais il y a quand même des efforts de ce type-là. Et moi, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, mais il faudrait peut-être qu'on développe un truc au niveau européen, parce que là, tout à coup, on se retrouve avec 350 millions de personnes, des besoins, des budgets beaucoup plus importants. Alors évidemment, l'administration, c'est toujours compliqué à faire tourner. Mais je me demande s'il faudrait pas développer un truc européen et pour pas se reposer ni sur Apple ni sur Google pour ce genre d'outils, quoi.
C'est difficile parce que c'est le journaliste, tu vois, on va revenir au Thomson TO7 où on va dire ça y est, on a une solution maison. Quoique Thomson is back, donc tout est possible. Mais c'est eux qui font l'ordinateur à 100 € que j'attends là.
D'accord, mais je ne savais pas.
Ouais, voilà, c'est bon. Et développer des contenus, tout ça. Enfin, surtout qu'on n'a quand même pas les mêmes écoles, on n'est pas au même rythme, on n'a pas les mêmes cursus.
Ouais, oui, bon, c'est sûr. Et moi, j'allais dire uniquement un truc pour l'éducation, tu vois, pas forcément.
Oui, bien sûr. Je parle que de ça. Mais les Chromebooks, c'est pas mal. Bon, ça mérite de la simplicité. Ça fait tourner des web apps, donc des trucs parfaitement ouverts qui peuvent tourner sur n'importe quoi d'autre. Ça a surtout le mérite pour une école d'une maintenance proche de zéro. D'une sécurité facile à gérer. Enfin, tu vois, c'est
bon. Peut-être des outils web tout simplement qui seraient accessibles de n'importe quel ordinateur. Je sais pas. Bon, je suis clairement pas ministre de l'éducation.
Mais voilà. Tu as choisi l'exil. Souffre-en les conséquences.
Oui, c'est vrai. Mais bon, les Chromebooks visiblement sont pas aussi absents des écoles françaises qu'on le pensait. Donc. Bonne nouvelle, je pense. Et il y a eu des commentaires très intéressants dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'émission, auxquels vous pouvez toujours participer, bien sûr, sur frenchspin.fr. Et on vous y encourage. Ça va être la fin de cet épisode. Et donc, comme toujours, je propose à mon invité de nous dire où on peut le retrouver sur Internet et ailleurs. Cédric, dis-nous tout.
Alors, si vous êtes très très matinaux, levez-vous le jeudi matin, en tout cas, très tôt pour venir voir la matinale de LCI.
Ou couchez-vous tard.
Ou couchez-vous extrêmement tard, parce que quand même, c'est 6h40, 7h40, donc...
mais quand j'étais moi-même plus jeune, tu vois, quand j'étais aussi fou que Mark Zuckerberg, il m'arrivait de me coucher.
Je me souviens, moi aussi. Ouais, et après, j'ai fait des enfants. Enfin bon. Et... 6h40, 7h40, sinon vous pouvez me suivre évidemment sur Twitter, @Cédric, et aller voir sur lci.fr la rubrique innovation pour laquelle je travaille avec mes camarades.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Oui, Facebook, tout à fait. Entre parenthèses, oui. On entend beaucoup de gens qui disent « oui, il y a des gens qui suppriment leur compte Facebook », mais enfin... Ça va, c'est les gens sont toujours assez actifs sur le truc. Je crois qu'on n'y est pas encore au delete Facebook vraiment global. Bref, NotPatrick sur Facebook aussi, et moi je ne poste que des trucs de qualité. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas commencer à utiliser les stories un petit peu plus sur Instagram et sur Facebook, c'est lié et tout. Je me dis que les stories, ça pourrait être sympa pour vous partager mon quotidien, parce que ça fait des semaines et des semaines que je veux faire des mises à jour et des updates et tout ça. Il y a même un truc story sur Patreon. Donc, je vais peut-être faire des stories privées sur Patreon pour les patriotes, pour leur raconter un petit peu comment ça se passe ici à la campagne. Ça pourrait être sympa. Et justement, Twitter, Facebook, vous connaissez bien. Je suis aussi disponible sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et comme je le disais tout à l'heure, Patreon, c'est un système hyper simple où vous pouvez soutenir l'émission financièrement. Vous décidez combien d'argent vous donnez par épisode et vous vous engagez à donner cette somme. À la fin du mois, vous êtes débité en fonction du nombre d'épisodes publiés. C'est hyper simple. Vous pouvez choisir donc la somme que vous donnez par épisode, mais aussi le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Généralement, je dis, si vous voulez pas soutenir tous les épisodes, faites quand même deux ou trois, hein, soyez cool. Et à partir de là, vous pouvez également vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement, il n'y a rien du tout. Il y a des récompenses assez sympas, notamment l'accès au Slack, où on se marre toujours très bien entre slackers. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes. C'est disponible dans les liens, dans les notes de l'émission. Et si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment... Bah, pensez-y, ça serait sympa pour moi et pour mon activité professionnelle. Bah, c'est tout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode dans une petite semaine. Ciao à tous.
Salut.
Most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.